Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine formidable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, Sébastien Baldofini, Éric Guay et Éric Figuère. Bonsoir messieurs.
Bonsoir à tous.
Au sommaire de cette émission, du basket avec la NBA qui est venue s'expatrier à Paris, du football avec un retour sur la semaine européenne et du tennis avec les sacres de Madison Keys et Jannik Sinner à l'Open d'Australie. Nous attaquerons après la publicité un débat sur la baisse de budget annoncée du ministère des Sports et nous terminerons comme d'habitude par le coup de cœur de nos invités. On va commencer avec vous, Éric Figuère, et le football. Donc, cette semaine a eu lieu la 7e journée de la Ligue des Champions. Le PSG était très attendu, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque c'était un choc contre Manchester City. Et le PSG a répondu présent.
Absolument, le PSG a répondu présent de la plus belle des manières. On avait quand même effectivement quelques doutes, hein, je crois tous autant qu'on était. On ne savait pas ce qui allait se passer avec ce Manchester City qui lui aussi était en grand danger, en grand souci. Et ben, l'équipe la plus forte des deux l'a emporté, largement d'ailleurs, puisque Paris a mérité sa victoire, a fait un très très beau match. Je dois quand même reconnaître que si Paris a fait un gros match, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une adversité d'une certaine manière aussi faible que ça. Venant de Manchester City, c'est quand même une grande surprise, même si City menait 2-0 et on s'est demandé à ce moment-là ce qui allait se passer et pas grand-chose pour Paris. Et Paris a répondu, s'est remis en selle et l'a emporté. Franchement, un très grand match.
Bon, on a vu en fait un match qui était verrouillé avant la mi-temps, 0-0, et puis qui s'est débloqué avec deux erreurs individuelles de défense du PSG qui amène City à 2-0. Et puis à partir de là, Dembélé a remis l'équipe un peu à l'endroit avec un Joao Neves qui a été extraordinaire tout le match. Et puis voilà, les buts se sont enchaînés jusqu'à ce dernier but accordé à la dernière seconde sur une passe en retrait d'un joueur de City. Mais voilà, Paris a pris la mesure de City en revenant à 2-2 en fait.
Ouais, complètement. Alors c'est vrai que les résultats ne reflétaient pas jusqu'à présent pour Paris le niveau de jeu. Hein, les résultats n'étaient pas bons, mais l'équipe quand même jouait très correctement. Bien sûr, pas assez pour espérer autre chose. Et les résultats ont parlé de toutes les manières. Mais les contenus étaient plutôt bons, voire quelquefois très bons. Bon, il manquait quelque chose à cette équipe-là.
L'efficacité notamment.
On n'est pas certain que ce sera suivi d'effet. Bien sûr, on l'espère, bien évidemment, pour Paris. On le saura très vite, puisqu'il joue très rapidement contre Stuttgart. Voilà. Donc on va très vite savoir si cette équipe-là... Alors on savait qu'avec le départ d'Mbappé, l'équipe était différente. On avait bien compris qu'elle pouvait être plus forte collectivement. C'est ce qu'on avait bien vu quand même depuis le début de la saison, mais qu'il manquait quelque chose quand même pour aller plus loin. Le début de la campagne a été difficile. Voilà, ils se reprennent au meilleur des moments. Tout reste à faire quand même si Stuttgart va quand même être difficile à manœuvrer. Je rappelle que c'est en Allemagne que ça va se jouer. Et Stuttgart a le même nombre de points et lui aussi joue sa qualification. Eux aussi jouent leur qualification.
Alors un match nul suffit aux deux équipes. Donc on peut.
Je ne comprends pas le message que tu veux faire passer, Olivier, concernant ce match nul. Mais effectivement, si ça leur convient aux deux équipes, tant mieux. Mais je pense que les deux équipes vont vouloir l'emporter. J'en suis convaincu.
C'est sûr. Et alors du coup, City, alors PSG se retrouve à la 22e place et donc à son destin en main. C'est ce qu'on vient de dire. Un match nul permettrait aux Parisiens de se qualifier. En revanche, pour City, c'est la mauvaise place au pire des moments. 25e avant cette dernière journée. Ça sent le roussi quand même.
City est
en
très 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 grand danger plutôt. Alors évidemment, on se dit que c'est City, donc forcément ils vont trouver la solution pour ce dernier match. Ils jouent Bruges. Et Bruges paraît comme ça un adversaire relativement à la portée de City. Mais là aussi, Bruges plutôt joue sa qualification. Ils sont devant City. Donc ils ne vont évidemment pas se laisser faire. C'est une certitude. Je crois que c'est à City. Hein, c'est en Angleterre que ça se joue.
C'est à City, absolument. Voilà. Et Bruges est 20e. Pour
voilà. Donc on peut quand même raisonnablement, puisque City s'est refait un peu, comme on dit vulgairement, la cerise en championnat, dans le championnat d'Angleterre, a repris quand même des couleurs. Donc je ne peux pas imaginer que City, qui aujourd'hui est la seule grosse équipe, bon, Paris est mieux placé et a véritablement son destin en main, il n'y a pas de souci, mais City est la seule grosse équipe des grosses équipes européennes, des grosses écuries, à être véritablement en danger, puisque Paris va passer, on peut quand même mettre une pièce là-dessus. Mais City c'est, ça va être, c'est, voilà, c'est très compliqué. Bon, je pense quand même que ça va le faire.
Alors surtout que City n'a que 8 points. En fait, c'est là où il y a plus que la place. Il y a cette différence de points importante avec les premiers au-dessus qui sont déjà à 10 points. Donc il y a vraiment une impériosité de gagner
C'est la victoire ou c'est la porte.
Sachant que si c'est la porte, c'est la porte définitivement.
Absolument, parce qu'il n'y a pas de repêchage.
Voilà, on n'est pas les équipes
et qui s'inclinent dans les autres. Alors ce ne serait pas la mort, bien évidemment, de City, comme ce ne serait pas non plus la mort de Paris si d'aventure il arrivait quelque chose. C'est certain, ces clubs-là survivront à une élimination avant les play-offs, mais ça ferait quand même tâche.
Absolument. On va parler des autres clubs français. Brest, qui nous avait habitués à des bons résultats depuis le début de cette campagne européenne, s'est incliné en Ukraine à Donetsk 2-0. Et les Brestois sont désormais 13e avec 13 points.
Alors Brest a encore son destin largement en main, puisque tous les clubs français, d'ailleurs, hormis Paris, ont 13 points.
C'est ça.
Donc ils sont très bien classés. Ils ont fait une superbe campagne. Forcément, à un moment donné, les limites, ils montrent un petit peu leurs limites. Après, perdre à Donetsk, enfin, c'était pas à Donetsk parce que, évidemment, ça se joue pas en ce moment là-bas, mais je crois qu'ils ont joué en Allemagne d'ailleurs. Mais oui. Perdre contre eux, c'est pas du tout infamant, parce que Shakhtar est quand même une grosse équipe européenne qui a beaucoup d'expérience. Donc perdre 2-0, je crois, c'est pas une catastrophe. Maintenant, le problème, c'est que là, ils jouent le Real.
Exactement, pour le prochain match. Journée, ils reçoivent le Real.
Ils reçoivent le Real, donc un match de gala, certes. Bon, je pense qu'avec 13 points, je pense qu'il n'y aura pas de soucis, bien évidemment. Mais ce serait bien de terminer sur, en tous les cas, dans le jeu, une bonne note.
Alors, on a aussi Monaco, qui est finalement le premier club français aujourd'hui dans ce classement, qui est 10e, qui a battu Aston Villa, qui est une belle performance, puisque Villa faisait un très très bon parcours aussi, 1-0. On s'attend à ce que les Monégasques soient aussi bien évidemment qualifiés. Et puis les Lillois de Bruno Genesio qui se sont inclinés 2-1 à Liverpool en faisant un bon match malgré tout.
En faisant un match solide, ouais, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Alors perdre là aussi à Liverpool, c'est pas du tout, comme je le disais tout à l'heure, infamant. Non, ils ont fait un match, une copie sérieuse. Ils perdent contre le meilleur club européen actuellement, donc il n'y a pas de souci. Et puis 2-1, c'est bien, ça montre bien qu'ils sont au niveau cette année. Et qui seront des candidats sérieux pour les quarts s'ils se qualifient directement en huitième, parce que ça va être un petit peu compliqué.
Pour les trois clubs français,
mais des candidats sérieux pour les huitièmes et pourquoi pas plus. Voilà, c'est des clubs qui peuvent être ambitieux. Lille, Monaco, Paris, bien évidemment. Brest, ça va être de plus en plus compliqué au fur et à mesure. Mais Brest joue tellement bien, même si cette année c'est plus difficile. Le niveau de jeu de l'année dernière n'est pas celui de cette année, même si ce qu'ils ont montré en Champions League est juste fabuleux. Mais ça va être de plus en plus compliqué quand même pour eux.
Alors cette dernière journée, donc on l'a dit, un Stuttgart-PSG, un Inter-Milan-Monaco, Lille, Feyenoord, Rotterdam et Brest-Real Madrid. Donc quand même du lourd pour les clubs français.
Et puis superbes affiches. Ouais.
Ouais, à côté de ça, il y a un Barcelone-Atalanta-Bergame qui est le Barcelone qui est deuxième du classement contre Bergame qui est septième pour l'instant. Donc là, il y a vraiment une place importante à jouer pour rester dans les huit premiers.
Bah surtout pour Bergame, oui, parce que Barcelone restera de toutes les manières dans les huit.
Et donc on l'a dit, City 25e qui accueillera le club de Bruges 20e, donc pour assurer sa survie dans cette
Ligue des Champions. Au-delà des clubs français, effectivement, là ce qui va être intéressant à voir, ça va être City. Bon, bien sûr, tous les autres également, mais là c'est vraiment les clubs français et City, c'est là que ça va se jouer.
Alors messieurs, on va passer d'un ballon blanc et noir à un ballon orange, et on va passer d'un Eric à un autre Eric.
C'est bien aussi.
Et donc on va parler de NBA. Eric, on va commencer par faire un point sur la saison régulière de NBA, puisqu'on en est quasiment à la moitié. Ouais, à peu près, hein, voilà,
on 43 a, matchs, voilà, 43-44 matchs selon les équipes
d'une saison régulière qui compte 82 matchs, on le rappelle. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur ce qui se passe à l'Est d'abord?
Alors, à l'Est, la surprise quand même, Cleveland qui se place alors que on attendait plutôt 6-7, mais Boston, le tenant du titre, est là.
Un peu décroché quand même. On a les Cavs, ils sont à
36-9 en victoire défaite. Donc c'est un très très bon résultat. Hein. Donc il faut savoir que après ça dépend comment ils ont utilisé leurs joueurs sur la première moitié de saison. S'ils ont voulu assurer pour faire jouer les gros. Celtic, c'est son habitude, finit toujours dans les 3-4. Donc, il n'y a pas de danger pour le champion pour l'instant, parce que je pense qu'il y a des joueurs qui sont un petit peu au repos en ce moment, comme Thompson, le pivot. Les Knicks, 3e, ça c'est une belle surprise, mais dès le départ, on s'attendait à ce que les Knicks, depuis 2-3 saisons, montaient. Et donc 30-15, donc 30 victoires pour 15 défaites, c'est un super résultat. Donc ils sont là. Donc à l'Est, on retrouve les favoris sont placés. La surprise à l'Ouest vient de les Thunder, Oklahoma City, qui s'était bien renforcé devant Houston et Memphis. Le même pourcentage quasiment de victoires-défaites pour les premiers. Donc les deux premiers sont assurent bien leur place pour les conférences. Et puis après, derrière, on retrouve l'équilibre sur une moitié de défaites, une moitié de victoires pour les... Il va falloir que certains fassent attention. Les Lakers se sont bien placés, restent dans les 5-6.
C'est ça, 5e avec 24-18.
Il ne faut pas trop s'éloigner de la 8e place, enfin de la 6e place pour les playoffs, d'accord, et de la 8e place pour les play-in. Donc il faut quand même être vigilant dans la deuxième moitié. Mais c'est toujours très difficile d'apprécier à ce moment-là, parce que première partie de la saison, les coachs font jouer beaucoup les jeunes rookies qui sont arrivés en début d'année. Les plus anciens, mis à part les Lakers, j'ai vu que Davis et LeBron jouent beaucoup. Donc c'est vraiment la stabilité. En plus, ils sont les deux meilleurs marqueurs de l'équipe. Donc ça, c'est... Mais ils ont fait jouer quelques rookies. Voilà. Donc là, maintenant, on va véritablement... La saison se lance véritablement pour garder ses positions. Moi, jusqu'au 13 avril, je crois, avant le début des play-ins.
Alors, justement, on a les Spurs qui sont 12e seulement de cette conférence Ouest, avec un bilan
ouais,
négatif.
Les Spurs sont 20
victoires,
22
défaites. Ouais,
20 victoires et 23 défaites.
Voilà. Donc, ça nous fait une transition toute trouvée avec les deux matchs des Spurs.
Oui, parlons de ce qui nous intéresse.
Ouais.
Qui viennent d'avoir lieu donc, à Paris, à l'Accor Arena. Alors, déjà, expliquez-nous comment ces deux matchs de NBA sont arrivés jusqu'à l'Accor Arena.
On est dans une grosse opération de la NBA qui cherche à se développer un peu partout dans le monde. Depuis quelques saisons maintenant, il y a toujours un ou deux matchs qui se font à l'extérieur. Il y en a eu un en Chine, il y en a eu un au Japon. Et cette année, bien sûr, l'opération marketing était toute trouvée, puisque Adam Silver,
le président
de la NBA, cherche à créer une ligue NBA en Europe. Donc la personnalité de Victor était tout trouvée pour faire la promotion de la NBA.
C'est un géant dans tous les sens du terme. Hein.
Oui, puis en France, et puis en plus ça le public, la NBA savait que le public allait répondre présent en faisant venir les Pacers. Pacers, c'est une superbe équipe quand même, hein, donc qui sont actuellement 5-6e dans leur conférence. En plus, c'est du jeu ouvert. Donc ça plaît au public et tout. Ça a permis à Victor de briller au premier match.
Avec un plus 30 pour les Spurs.
Avec un plus 30, pour lui et pour les Spurs.
Voilà.
Parce que lui, il est à 30 points hein, quand
ça.
Même. Hein. D'accord. Après, au deuxième match, Liberton a fait parler quand même la
voilà.
poupe. Parce
les Pacers ont décidé de remettre les points.
C'était serré quand même. C'était serré au moment de la sortie de Wemby quand même. Hein. C'était
oui.
serré, je crois.
Mais
qu'il
il était moins dans. Après, il faut se mettre à la place et dans le contexte. Hein. C'est, il a énormément fait d'opérations autour. Être en même temps dans le basket et dans la compétition et puis oui. gérer tout
c'était
un tas.
C'était déjà extraordinaire qu'il ait fait cette prestation au premier match, d'ailleurs.
Voilà. Mais je pense qu'il a l'étoffe, il a la capacité, puis il a cette espèce de nonchalance qui prend les événements sans pression. Et donc, bon, en plus, une victoire, une défaite, je pense que...
Grosse victoire,
oui, c'est bien
une grosse victoire, une grosse défaite.
Et je crois qu'il faut qu'on se rende compte quand même de ce qui est en train de devenir Wembanyama quand même. Hein.
Oui.
On a la chance en France d'avoir quelques sportifs légendaires qui sont encore en activité, comme Riner, aujourd'hui Léon Marchand. Mais là, Wembanyama, c'est quand même... Alors, toi, tu es un spécialiste, mais ouais. quand tu regardes ça, c'est juste exceptionnel.
Il est
Quel plaisir.
Ben, en plus, je pense qu'il a vraiment choisi le banc club pour faire la formation et pour faire sa progression. Parce qu'il est exactement dans le timing qu'il faut. C'est-à-dire qu'il a fait une saison l'année dernière à son
de
niveau.
Découverte.
Là, on sent qu'il a pris un peu d'étoffe, il a pris un petit peu plus d'épaule.
Il a des stats qui s'améliorent grandement.
Il a des stats qui s'améliorent régulièrement. Même si, dans l'ensemble des stats, il a, au niveau des shoots, il apparaît à la 17e place. Ce qui est pas mal quand même. Hein. Il est à 24 points de moyenne. Voilà. Par contre, il est en tête sur les contres. Ça paraît logique vu sa taille, mais il y a d'autres grands comme Porzingis qui sont pas à côté. Gobert avait ces stats là aussi. Il progresse bien. Après, ils vont lui faire d'autres choses, c'est clair. Il a ce que n'ont pas beaucoup de grands, c'est qu'il a un bon shoot à 3 points. C'est un shoot posé, mais c'est un shoot.
Ah, il est aussi très très agile.
Il est coordonné pour
c'est exceptionnel. Tu le vois, à un moment donné, il y a une perte de balle quasiment.
Après,
il la récupère.
Il ne faut pas demander à quelqu'un de 24 de faire des choses qu'un mec d'un mec 90, 95.
Mais aucun de ceux qui font 2,24 sont capables de faire
ce qu'il a. Pour sa taille à 2,24, il fait de belles choses. Et aujourd'hui, les deux, trois grands qu'il y a en NBA, que ce soit lui, Porzingis ou même Jokic, tout ça. C'est vraiment fabuleux. Hein, mais il est
explosif.
Il est parti pour être un grand de la NBA.
Il y a un commentateur, d'ailleurs, ancien joueur, qui a dit que ce serait le premier à devenir milliardaire. Parce qu'il avait véritablement absolument tout ce qu'il fallait pour aller encore plus haut que tous ceux qui sont passés avant lui.
Eric, la NBA, il ne va pas le lâcher. Hein.
On va finir là, cette page NBA, avec deux questions. Est-ce qu'on le verra au All-Star Game? A priori, oui.
Alors là, petite surprise, il n'est pas du tout dans les listes aujourd'hui. Hein. Donc il est pas. Et il a répondu à cette question en conférence de presse. Ça le déçoit pas. Ça le déçoit pas parce qu'il y sera. C'est pas là le problème. Hein. Il y viendra
dans les années à venir.
Oui, dans les années à venir. Sur cette saison, c'est pas évident parce que les postes où il est aujourd'hui, il y a 2-3 joueurs qui sont. Donc à la limite, moi, je suis pas tellement chaud pour qu'il vienne trop vite dans le All-Star Game. Il aura largement, il y sera. Je crois que Parker a été 6 fois au All-Star Game. Il aura le temps d'y venir.
Et deuxième question, est-ce que les Spurs vont suffisamment remonter pour participer aux playoffs d'ici
la c'est la vraie question de compétition. Nous, on aime le sport, mais on aime la compétition. Et puis donc, il faut que le basket. Et là, maintenant, dans cette deuxième partie. Il va falloir cravacher. Donc je pense que tout était bien géré jusqu'à présent, jusqu'à ce match, ces deux matchs parisiens où on était, je ne vais pas dire qu'on était dans le folklore, mais on était. Et maintenant il faut absolument une dizaine de victoires de plus.
Est-ce que le retour de Popovic un jour pourrait ramener un petit peu de.
Ben c'est surtout autour de Victor. Autour de Victor, derrière Victor est à 24, le deuxième est à 12,4. C'est pas possible, il faut un troisième joueur, il faut un autre joueur qui soit à 18-20 derrière, sinon ça va être compliqué pour les Spurs.
Ok, mais si on va clore cette page NBA, on va passer au tennis avec la fin de l'Open d'Australie, donc qui a rendu son verdict, Sébastien Mallovini, avec une surprise chez les dames. Alors, vous nous aviez annoncé une surprise la semaine dernière. On l'a eu, effectivement. Madison Keys s'est imposée en battant Aryna Sabalenka, la numéro 1 mondiale. Et chez les hommes, il n'y a pas eu de surprise. En revanche, là, vous vous êtes trompé.
Je me suis bien trompé.
Jannik Sinner a fait face à ses responsabilités. Il a battu Alexander Zverev hier soir en finale assez facilement, j'ai envie de dire. On va commencer par Madison Keys, avec la consécration pour elle à 29 ans.
Oui, ça fait, je pense, des années qu'elle court après un grand chelem, et puis là, toutes les planètes étaient alignées, parce que au deuxième tour, elle manque de prendre la porte contre une qualifiée. Elle se bagarre bien, après derrière, elle met son jeu en place, elle bat une 6 mondiale, elle bat la 11 mondiale, elle est montée, et puis derrière, elle bat Swiatek en se vend une ou deux balles de match. Après lui fait que commencer dans le sport, hein, elle arrive en finale, tout est possible. Et même si Sabalenka était,
on a une finale un peu décousue avec deux premiers sets à sens unique d'un côté puis de l'autre, et un vrai troisième set où là il y a eu combat.
Il y a eu un grand combat, et puis elle a su, on va dire qu'elle a su saisir sa chance et puis ça a marché. Un peu comme hier soir chez les garçons dans le tie-break du deuxième où Zimmer nous fait un petit let voilà. et ben, ça aide et ça a bien aidé parce que ben, en gagnant le deuxième il savait que ben, c'était presque plié. Donc je pense que voilà, dans le sport malheureusement il y a cette part là et comme je le dis, elles étaient bien alignées, les étoiles, et puis ben, ça fait plaisir, ça change. Moi je trouve que c'est bien, en plus elle a 29 ans je crois, donc
c'est ça.
Donc c'était, voilà, puis elle rentre dans le top 10.
Elle retrouve le top 10, absolument. Donc elle a battu la numéro 2 mondiale, puis la numéro 1 mondiale. C'était pas arrivé en grand chelem depuis 2009. Ouais. Donc c'était quand même 16 ans. Et là, c'était Svetlana Kuznetsova qui avait réussi cet exploit. On l'a vu avec des grosses qualités mentales, mais on l'a vu avec un tennis assez offensif aussi.
Oui, et puis ce tennis-là, on sait très bien que là, ça a bien marché pendant 15 jours. Et ça se trouve, là, pendant 3 mois, ça va sortir. C'est malheureusement ce style de jeu qui fait que là, elle a gagné un grand chelem, mais ça va être dur pour en gagner un deuxième.
Alors, on va voir, puisqu'on sait que le début de la saison se passe beaucoup aux États-Unis sur dur, donc ce qui devrait plutôt lui convenir. À mon avis, elle va peu jouer d'ici les premiers tours, enfin l'équivalent des Masters 1000 chez les dames.
Et puis elle va apprendre à jouer maintenant en étant vainqueur forcément du grand chelem.
Très attendu. C'est plus la même chanson.
Là, médiatiquement, c'est plus pareil. Hein.
On va basculer chez les messieurs. Donc, on l'a dit, Jannik Sinner, il a fait ce qu'on appelle le back-to-back, de conserver son titre acquis de haute lutte l'année dernière en 5-7 contre Medvedev, mais cette fois-ci beaucoup plus facilement sur Zverev.
Puis pas photo sur tout le tournoi. Sur tout le tournoi, il a été.
Un petit peu d'inquiétude au début du tournoi, quand même. On l'a vu perdre un set deuxième tour.
Mais
contre
un mental qui. Voilà, il s'affole pas. À chaque fois qu'il a perdu un set,
on était plus inquiet sur son état physique finalement.
Oui. Du reste, en finale, il se touche un peu la cuisse, mais en vu comment il bougeait derrière, on s'est dit qu'il était pas blessé. Mais c'est vrai que c'était la seule chose qui pouvait le faire arriver, c'était ça ou peut-être un grand Djoko. Bon, Djoko s'est blessé avant et après Zverev, pour moi, il a vraiment le type de jeu qu'adore Sinner. Il le met en cadence. Et puis après Zverev, pourtant c'est dommage, il a déjà perdu des finales de Grand Chelem.
C'est ça, c'était la troisième.
Je trouve qu'il a pas pris. Il fallait, comme on dit, jouer les lucarnes. Et il a vraiment pas pris de risque. Il a essayé de le jouer. En gauche-droite, mais je pense que Sinner, là, il faut vraiment, vraiment aller chercher le match.
On l'a senti très vite très nerveux, en fait, Zverev. Oui. Il s'est vraiment énervé relativement vite, notamment après ces histoires de raquettes pas cordées à sa convenance, visiblement, ou qui revenaient pas assez vite. Mais on sentait qu'il y avait...
Il n'avait pas les armes pour le déborder. Donc après, c'est vrai que ça énerve, parce que, en plus, l'autre a de la réussite. Donc c'est vrai que voilà, Sinner il confirme. Alors j'espère que à Roland il y en aura un autre, parce que on est quand même, ça fait 15 ans qu'on part à toujours les mêmes qui gagnent toujours les tournois du Grand Chelem. Et c'est pour ça que la semaine dernière je disais que je voulais un jeune, un Shelton ou
Pour le coup, il est jeune, hein. Il répond aux critères.
Ah oui. Et c'est bien dommage, parce que je pense que voilà, maintenant il a pris l'expérience qu'on est en demi de Grand Chelem, malheureusement.
Trois finales de Grand Chelem, trois victoires.
Ouais, mais on se rend compte que pour gagner ces tournois, quand même, c'est pas accessible à tous. Filles, on a vu plus de nouvelles gagnantes ces dernières années. C'est certain, chez les garçons, on a bien compris que beaucoup moins avec les gros. Et on se rend compte que pour gagner ces tournois-là, il faut autre chose. Et on voit aujourd'hui Sinner qui, moi je ne suis pas un spécialiste tennis, mais évidemment j'aime. Et quand je le vois jouer, je me dis, mais comment ça se fait qu'il est aussi fort? Il n'a pas spécialement, une carrure, niveau, hein. Il est très longiligne. Il a une allure un peu détonnante, un tout petit peu, j'exagère un peu. Il n'a pas forcément un coup bien plus fort que les autres. Et puis il a un sang-froid, il a un mental, une régularité qui fait qu'aujourd'hui, pour aller le chercher... Alors, Alcaraz, on sait ce qu'il vaut aujourd'hui, même s'il a un petit peu de mal aussi.
C'est plus compliqué sur dur, mais on va voir les deux.
Mais on va, je pense, se retrouver encore avec deux ou trois joueurs.
Et puis, comme tu dis, chez les garçons, il y a 20 joueurs qui peuvent gagner des tournois du Grand Chelem. Enfin, le niveau est très, très haut.
Sauf qu'il n'y en a pas 20 qui gagnent.
Mais sauf que lui, il prouve que depuis, il a gagné deux tournois du Grand Chelem. Là, c'est son troisième. Il a gagné un Master. Il gagne des ATP. Il a pas beaucoup de... Je crois qu'il perd que 6 ou 7 fois dans l'année.
C'est à peu près ça. Il est sur des stats à la Federer, Nadal, Djokovic. Ouais.
Quand je peux me tromper, mais j'ai peur qu'entre lui et Alcaraz, il n'y ait pas grand monde, même si les jeunes, comme Shelton, effectivement, qui a montré quand même quelque chose.
Coups, mais
des petits coups pour gagner un grand chelem.
Bah, il faut le faire pendant 15 jours.
C'est toute la différence.
C'est plus un petit coup, là.
C'est du 3-7. Hein.
Sébastien, ouais. un petit mot sur Djokovic, je vous l'avais dit, qui a arrêté blessé en demi-finale très rapidement.
Oui, très rapidement. Enfin, je trouve que, voilà, après le public, il devait être déçu. Je trouve que Zverev a eu une parole qui était très bien. Je pense qu'un Djokovic, s'il a arrêté là...
Ah, c'était absolument...
Non, c'est qu'il pouvait
c'est
pas.
C'est vraiment sûr.
C'est surtout la réaction du public qui est absolument scandaleuse.
Et ce ne serait pas arrivé avec Rafa, avec Roger.
Si on fait le pendant, on a quand même des spectateurs qui sifflent
c'est embêtant,
le 10 fois vainqueur du tournoi. C'est quand même très embêtant.
Il a gagné il y a 2 ans avec un ischio jambier personne n'aurait pu jouer. Donc je pense qu'ils ont été très durs et Zverev a été... formidable derrière en disant
et tout,
public
tout comme Sinner a été d'ailleurs avec Zverev en finale d'ailleurs.
Exactement.
Je trouve que voilà, ce qui est beau dans ce niveau-là, c'est que voilà, ça reste des grands gentlemen et c'est très bien.
Mais c'est bien dans le sport de voir ça.
Oui,
on le voit pas dans toutes les disciplines, mais c'est bien.
On va rester sur cette note fair play et pleine d'amitié et on va prendre une page de pub avant de se retrouver pour le débat de cette émission.
La pub.
Le tout info avec Mivi.
Mivi, votre spécialiste vitrerie, miroiterie, solutions techniques, sécurité acoustique et solaire. Mivi, expert en verre depuis 1994. Mivi, le verre, c'est notre métier.
Info Facebook ou le 24 11 84.
Envie de savourer une délicieuse pizza? Doug Pizza est là. En livraison, sur place ou à emporter, nous sommes ouverts 7 jours sur 7 et la livraison est gratuite. Votre meilleure pizza, c'est chez Doug Pizza. Téléphone 44 02 11. Page Facebook Doug Pizza NC.
Tous les lundis, chez Mobile, doublez vos points Conso Plus. Et ce n'est pas tout. Chaque lundi, Mobile offre à un gagnant ses achats en caisse. Ne manquez pas cette chance. Rendez-vous le lundi dans les stations mobiles participantes.
Mobile Energy lives here.
RRB, les 17h33, on retrouve tout de suite la suite d'une semaine formidable avec Olivier Ledain et ses invités.
Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Et si on va s'éloigner un petit peu des terrains de sport et on va se rapprocher des bureaux où se passent les grandes décisions, notamment pour le ministère des Sports. L'État, dans le cadre de son projet de budget 2025, a proposé une baisse du budget du ministère des Sports de près de 33%. Marie Barsac, qui est elle-même nouvellement nommée ministre des Sports, s'est insurgée face à cette baisse annoncée. Le monde sportif s'est mobilisé aussi par la voix de plusieurs athlètes, dont Thierry Riner, par exemple, pour faire circuler une pétition afin que le sport garde une place prépondérante dans la société. 6 mois après les JO, le sport ne semble plus être une des priorités de l'État malgré les bons résultats et l'engouement que ces Jeux populaires ont engendré. Messieurs, qu'en pensez-vous ?
Le sport n'a jamais été une priorité en France.
Alors c'est presque un deuxième débat.
C'est le premier constat à faire, mais en fait on revient à celui-là, puisque ça n'a jamais été une priorité en France, malheureusement, alors qu'on sait tous, autant qu'on est et ici présents, à quel point le sport est bon pour l'être humain et pour tout un tas de raisons. Et voilà, ça n'a jamais été la priorité en France. Ils ont mis effectivement le paquet pour les Jeux Olympiques et c'est toujours le cas pour tous les pays qui l'organisent. Et puis une fois que c'est fini, ben voilà, on retombe dans des travers trop connus malheureusement et on va passer
Eric Guay, vous qui avez eu des responsabilités politiques également, donc avec un peu, j'ai envie de dire, les deux casquettes, comment vous percevez le message que l'État envoie en annonçant cette baisse juste après les Jeux Olympiques, avec un exemple que Marie Barsac a rappelé, il ne faut surtout pas faire ce qu'a fait Londres en 2012, juste après ces JO, à baisser justement pour couper totalement l'engouement qui avait été créé par les Jeux.
On est exactement dans la même erreur, c'est vraiment dommage. Après, on prend un peu de recul, on sait que le budget de l'État est très compliqué, est très difficile, et puis qu'il y a des choix à faire, donc quelles que soient les opinions politiques. Mais on était dans une telle dynamique après les Jeux Olympiques, Tout le monde a soulevé le succès de Paris, donc ça a démontré un visage de la France, un bon visage de la France.
Et c'est toujours ce qui est appelé d'ailleurs par les politiques à ce moment-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils veulent que le pays surfe sur ses excellents résultats.
Moi, j'aurais tendance à dire, justement, c'est si on est dans une situation difficile, ben, mettons encore plus d'argent dans des domaines où, notamment dans le sport ou dans l'éducation, où c'est dans ces secteurs-là qu'on redonne à une population, à un peuple,
une identité,
à sa jeunesse. Il faut doubler le budget des sports. Parce que c'est dans ces secteurs-là, ça nous fera peut-être un sous-marin en moins.
Mais malheureusement, la question est plus large, malheureusement.
Alors, au-delà des sous-marins, peut-être que simplement dans la délinquance ou dans les choses comme ça, on aurait moins de budget à mettre pour. Si on faisait plus d'éducation par le sport.
Bah, si on ne dépendait pas autant d'argent inutilement, peut-être qu'on serait.
C'est dans ces secteurs-là qu'il faut investir pour que la population, la jeunesse, les faits divers qui se sont passés, des jeunes qui pour un téléphone portable, s'entretuent. C'est une catastrophe. Mettez-leur un ballon plutôt qu'un portable et puis qu'ils aillent sur des terrains, qu'ils aillent faire du sport. Voilà, c'est tout un état d'esprit à modifier. Et peut-être que. En France, on n'a pas encore pris conscience qu'à l'école, il faut faire du sport, qu'après l'école, il faut faire du sport, que voilà, il faut donner de l'argent aux clubs, aux associations. Enfin, voilà. Non, on a du mal.
On a du mal, mais pourtant, on sait que le sport français ne vit que du bénévolat, en tout cas sur les petits niveaux, bien évidemment.
On aime bien faire des cocorico, machin. On a des bons sportifs, on a des sportifs de haut niveau qui.
Oui, mais c'est là que nos politiques font j'appelle la récupération.
Qui rament comme des fous pour pouvoir maintenir leur niveau, qui sont obligés d'aller soit à l'extérieur pour se former, s'entraîner, etc. Mais ce qui est dommage, c'est que quand on va au bout du raisonnement, la France a les moyens et la capacité le tout, c'est vraiment
Presque donc exactement
là, bon,
ça.
Nous,
le
on
sujet.
Est des convaincus, donc c'est très compliqué. Mais si on commence à lancer un sujet, moi qui me mets les poils à pic, parce que je comprends pas la façon de raisonner, la façon
sujets, puisqu'effectivement, le budget qui avait été initialement proposé. Prenez en compte le fait qu'il n'y avait pas suffisamment d'infrastructures pour l'ensemble des nouveaux licenciés qu'avaient généré les Jeux Olympiques, notamment par exemple en tennis de table, où ils se sont retrouvés avec les frères Lebrun qui ont fait une promotion formidable, avec énormément, je crois, ils ont fait 25% de licences en plus, et donc ils se retrouvaient avec presque plus suffisamment de places dans les salles de ping pour jouer.
Il y a un constat basique aujourd'hui, surtout le raisonnement de la société, on a une jeunesse à la dérive, on entend ça tous les jours, du matin au soir.
Le constat est fait.
Et le constat est fait. Bon, ben, qu'est-ce qu'il faut mettre pour que cette jeunesse ne parte pas à la dérive ? Là, il y a une activité, il y a le sport et personne ne peut dire le contraire. Personne ne peut nier le contraire. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une partie de la solution qui est là. Mais on n'arrive pas à y aller, on n'arrive pas à faire à un moment donné ce que les Néo-Zélandais ont fait, ce que l'Australie a fait,
il y a une grande différence avec ces pays-là, c'est que nous on parle beaucoup et certains pays agissent beaucoup.
La priorité de nos politiques, c'est tout. Hein. Je pense que si on gérait toute cette jeunesse-là, en sortant de l'école, qu'on faisait entre guillemets office de parents, de deuxième parents, on n'aurait pas tous ces problèmes. Mais ça coûte de l'argent. Il y en a beaucoup qui pensent que cet argent-là, il est pas bien mis. Parce qu'on ne voit pas tout de suite la différence qui pourrait être faite, alors que si on investissait dans autre chose. Mais c'est sûr que c'est une mentalité que on n'a pas. Et on va encore se plaindre. Et on va encore dire qu'on veut faire pour la jeunesse, pour le sport et tout, mais on fera jamais rien.
C'est quand même ce que disent un certain nombre de très grands sportifs français, dont Teddy Riner, je vais le reciter, hein, mais qui dit que la France n'est pas un pays de sport.
On a un pays d'école. On fait des grandes écoles, on veut sortir les meilleurs et toujours. Pour moi, la France, le français veut toujours faire le meilleur. Mais il n'y a jamais de place pour le deuxième. Après, c'est compliqué de vouloir mettre tout le monde et vouloir faire de la masse quand on veut faire qu'un premier.
Mais on n'est pas logique.
Quand on regarde, on n'est jamais premier nulle part.
On n'est pas logique avec nous-mêmes. Les résultats des Jeux Olympiques ont démontré que nos athlètes de haut niveau sont excellents. avec les moyens qui avaient été mis, qui n'étaient pas énormes, on a obtenu des résultats excellents, de très bons résultats.
Et la moitié s'entraîne à l'extérieur, c'est clair.
Donc c'est bien la preuve. Alors déjà, on ne met pas beaucoup, et on a des bons résultats, et on a des grands champions. Vous imaginez que si on mettait plus...
Ah oui,
eh bien, on arriverait à incorporer et puis à régler une partie des problèmes de la jeunesse aujourd'hui. Mais il faut voilà. Ils ont raison, ces sportifs, de taper le poing sur la table à un moment donné, en dehors de toute considération politique. C'est, le sport, c'est un élément crucial pour le développement d'une société. Et aller en Norvège, aller en Suède, aller au Danemark, les gens vivent au quotidien.
Et ils vivent globalement beaucoup mieux, d'ailleurs, entre parenthèses.
Mais attention,
il n'y a pas seulement les résultats.
Non, on se parle du sport du haut niveau, parce qu'on a les résultats, mais pas que le haut niveau. Tu le disais tout à l'heure, pour le quotidien de chacun, pour la santé.
On sait que ce n'est pas parfait. Nulle part ailleurs, c'est parfait. Il n'y a pas un pays, effectivement, qui ne rencontre pas de problème. Mais on sait que dans ces pays-là, il y en a beaucoup moins. Voilà. Et nous, on le voit tous les jours aux informations, mais voilà, un problème...
Messieurs, la fin de cette émission approche et donc on va suivre ce sujet de près.
Il
quand
va
même
chauffer, Olivier.
Que on va quand même
Saria est pas loin,
ouais. faire en sorte que on l'espère le sport soit mieux défendu et on pourra reparler de ce
c'est
sujet
vrai,
d'ailleurs.
Énervé, là.
Alors c'était pas le but, du coup je vais vous redétendre tout de suite et je vais vous demander vos coups de cœur de la semaine, messieurs, pour terminer cette émission. Éric Figuère, du coup, parce que vous avez l'air énervé, on va commencer par vous.
Je vais commencer. Alors c'est pas pour un sportif, mais c'est pour quelqu'un qui n'est pas encore mort, il est encore vivant, mais malheureusement les jours s'amenuisent pour lui, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour le sport, c'est monsieur Charles Bietri, voilà, qui est une des voix, on est tous les quatre ici d'un certain âge, bon, pas tous, et donc il a participé à tout ce qu'on a pu vivre, nous jeunes, à travers le sport, c'était une voix très, très importante. Et c'est aujourd'hui un monsieur qui est malheureusement qui a la maladie de Charcot. Et d'ailleurs, je vous invite à, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, à lire L'Équipe. Et il y a un très beau reportage avec quelques anecdotes et aussi un peu plus largement sur la fin de vie pour les personnes qui sont malades à ce point-là. Et c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté dans le sport, et donc je voulais le saluer, même s'il est encore présent.
Eh bien, on salue Charles Bietri, qui effectivement a été la voix
de Canal+,
pendant des années et des années. Éric Guay, votre coup de cœur ?
Deux petites choses. Victor Wembanyama offre 3 terrains de playground à sa ville natale pendant son extraordinaire. On parle, ça fait le lien avec le sujet précédent, donc voilà, beau geste, etc. Et puis, si vous le permettez, une petite pensée pour Nalaïn Uregei, qui était un grand, grand spécialiste de la NBA. Quelqu'un qui ne parlait pas, mais avec qui aimait beaucoup le sport et la NBA. Voilà.
Et c'est noté. Et Sébastien Maldovini, on va terminer par vous, votre coup de cœur de
Alors,
cette semaine.
Je ne vais pas me faire des copains marseillais, mais moi, je vais dire le PSG, parce que on l'a toujours critiqué avec les remontadas et tutti quanti. Et là, ils ont montré du caractère et ça change un peu. Et je trouve que c'est bien. Pour une fois,
oui, ça change, ça c'est sûr.
Non, mais pour une fois, ça m'a plu, parce que d'habitude, ils sont plutôt dans le contraire, à mener 2-0 et à perdre 4-2. Que là, ils ont une bonne attitude et j'espère que ça a réveillé en eux quelque chose pour la suite.
Eh bien, on va avoir la réponse dès cette semaine avec la dernière journée de cette phase de poule de Ligue des Champions. Messieurs, merci à tous les trois d'avoir été présents pour cette émission et on se retrouve la semaine prochaine pour une semaine sportive.
Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.